en sarcophage.
Les sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines, c'est le temps des visites.
Les chroniques gastrosophiques du professeur Rosmini.
Lorsque nous mangeons, nous ne mangeons pas seulement des protides, des glucides, des lipides ou autres. Nous mangeons aussi des symboles. Le repas de Noël, pour ceux qui fêtent cette fête de Noël, en est sans doute un bon exemple et je voudrais évoquer quelques-unes des dimensions de la tradition provençale du gros souper du 24 décembre. Ce qui m'intéresse ici, c'est moins sa dimension religieuse que sa dimension symbolique. Et j'insisterai notamment sur le fait que ce repas est aussi une fête de solstice, hein, puisqu'on est à la période où la nuit est la plus longue, et on va voir en quoi est-ce que cette dimension solsticiale influe sur le rapport aux aliments et le rapport à la table en général.
C'est la belle nuit de Noël, la neige est dans son manteau blanc.
Alors d'abord, pour le gros souper provençal, en général, il y a une ritualisation de la table elle-même, et notamment sur la table, on doit trouver le fameux blé de la Sainte-Barbe qu'on met à pousser, qui est bien sûr un symbole de prospérité, mais qui, de manière peut-être plus intéressante, est aussi un symbole de mort et de renaissance. En effet, le grain doit mourir pour que puissent pousser les futurs grains, l'épi. Et donc cette mort et cette renaissance font écho, en cette période de l'année, à la mort et à la renaissance de l'année écoulée, à la mort et à la renaissance du soleil, hein, puisque les anciens voyaient dans le solstice une mort symbolique du soleil, promesse de renaissance aussi. Et il y avait en fait des inquiétudes, hein, bien entendu. Il y avait des inquiétudes archaïques liées au fait que les jours ne puissent ne pas rallonger et rester comme ça aussi courts avec des nuits aussi longues. Pour ce qui est du repas proprement dit, seuls les cardons et la brandade de morue semblent des ingrédients essentiels au souper. Et puis surtout, il y a aussi les 13 desserts, les fameux 13 desserts de Provence, qui sont porteurs d'un symbolisme qui est à la frontière du païen et du religieux d'ailleurs. Hein. Par exemple, parmi les 13 desserts, on trouve des fruits secs, qu'on appelle communément les mendiants. On les appelle les mendiants parce qu'en fait, leur couleur, la couleur des fruits secs, fait écho à la couleur des robes de bure des ordres mendiants. Les raisins secs évoquant la couleur des robes des dominicains, les figues, celles des franciscains, les noix, celles des augustins, et les amandes, celles des carmes. Alors, la présence des ordres mendiants, la présence symbolique ici des ordres mendiants dans ce repas fastueux, ce repas qui est en général un repas de fête, est peut-être un écho de la mauvaise conscience du chrétien lorsqu'il ripaille, je ne sais pas, peut-être même une certaine forme d'hypocrisie, hein, ce rappel de la pauvreté, du devoir de solidarité, à un moment où finalement on mange joyeusement.
Allez, on y va. Petit enfant de la Chine, tu fabriques mes jouets.
Autre élément des 13 desserts intéressants sont les agrumes, qui ici alors symbolisent peut-être l'ouverture vers l'ailleurs, hein, puisque les agrumes en Provence ne poussaient pas sur le sol provençal. Et donc ici, on constate une fois de plus que la cuisine est non seulement une façon de voyager dans le temps, on l'a souvent vu, mais aussi une manière de voyager dans l'espace. Hein. Les agrumes sur la table provençale, eh bien, c'est un peu de l'ailleurs qui vient vers nous.
Ton patron, il doit être...
Le nougat noir et le nougat blanc sont aussi des éléments essentiels des 13 desserts. Et ici, on retrouve en fait le symbolisme du miel. Sans doute, miel qui est un symbole de fécondité dans quasiment toutes les cultures. Le miel qui est un symbole de douceur, c'est évident, par son goût. Douceur dont on a peut-être besoin, en particulier dans ces repas familiaux, pour adoucir les éventuelles tensions, les éventuels conflits qui couvent, hein, et quelles sont les familles qui n'ont pas de conflits ou de tensions à adoucir grâce au miel. Et puis, là encore, on retrouve cette idée du miel comme symbole du triomphe de la vie sur la mort et de triomphe contre le temps, puisque le miel est le seul aliment qui est complètement incorruptible. Le miel ne peut pas pourrir et donc il a été vu dans toutes les civilisations comme un symbole de vie éternelle, comme un symbole de renaissance. Et là encore, en cette période particulière du solstice que j'ai évoquée, eh bien la présence du miel a une connotation tout à fait particulière de promesse de renaissance.
C'est la belle nuit de Noël.
Pour terminer, il y a une tradition aussi dans le gros souper provençal qui est de mettre une assiette supplémentaire, une assiette en plus du nombre de convives, et on appelle souvent cette assiette l'assiette du pauvre. Alors là, il y a plusieurs interprétations, soit c'est l'idée de garder là aussi, comme tout à l'heure avec les ordres mendiants, le souvenir des nécessiteux, penser à ceux qui ont besoin, ceux qui ne peuvent pas faire la fête ce soir-là, et éventuellement d'ailleurs de se donner la possibilité d'inviter un pauvre à manger. Et puis, il y a une autre interprétation ethnologique qui me paraît assez intéressante, c'est que l'assiette du pauvre, ce n'est pas l'assiette du miséreux, ce n'est pas l'assiette du nécessiteux, c'est l'assiette de mon pauvre oncle ou ma pauvre mère, c'est-à-dire ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont morts. L'assiette du pauvre, ici, serait une manière d'associer à la fête les défunts de la famille. Et effectivement, on sait aussi que ces repas de famille, ces repas ritualisés, ce repas de Noël, par exemple, sont aussi des repas du souvenir. Des repas donc dans lesquels les morts sont presque aussi présents que les vivants.
Caille en sarcophage.
Les sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines, c'est le temps des visiteurs.
Les chroniques gastrosophiques du professeur Rosmini, tous les dimanches à 13h30.
Dans la maison,